En colloque. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, le paléontologue Henri Lumelet, directeur de l'Institut de paléontologie humaine à Paris, membre de l'Institut, vous propose une grande histoire des premiers hommes européens, titre de son dernier ouvrage, paru en 2007 aux éditions Odile Jacob, et également thème de la première conférence publique de l'IPH. Ce cycle de conférences que nous vous retransmettrons courant 2008, puis disponible dans notre médiathèque, consisteront en des rencontres entre spécialistes du monde contemporain et du monde de la préhistoire pour susciter la réflexion sur les leçons à tirer du passé, que ce soit dans le domaine de l'habitat, l'énergie, le climat, l'art ou encore la nutrition. Pour l'heure, cette conférence introductive vous emmène voyager dans le temps parmi plus de 40 années de recherches menées en France comme à l'étranger, de Lucie, Australopithecus afarensis, découvert par son confrère Yves Coppens, à l'homme moderne, illustré par les fouilles, toujours actuelles de la grotte de Totavel. Il n'y a qu'un pas qu'Henri de Lumelet vous propose de faire au cours de son intervention. Vous trouverez par ailleurs sur notre site les photos illustrant les propos de Monsieur de Lumelet. Bonne écoute et bon voyage dans le temps.
J'ai fait ce livre rapidement. Le but, c'était un peu de montrer les nouvelles découvertes qui ont été faites au cours des dernières années en Europe méridionale. Mais on ne pouvait pas parler des premiers habitants de l'Europe sans parler avant de leur origine africaine. Alors je voudrais très rapidement évoquer cette grande aventure des hommes préhistoriques, des premiers hommes. Le plus vieil hominidé connu actuellement, c'est une découverte qui a été faite dans le nord du Tchad par Michel Brunet. C'est un crâne qui est très archaïque. Si vous regardez vos voisins ou vos voisines, vous voyez qu'ils sont bien différents. Il avait un crâne tout plat, pas du tout de front, un gros bourrelet au-dessus des orbites, une face qui se projette en avant du crâne, pas un museau, mais enfin une face qui se projette en avant du crâne, et une capacité crânienne très faible, de l'ordre de 350 cm cubes. C'est ce qui a fait dire à certains paléoanthropologues que c'était pas un hominidé, que c'était encore un grand singe, et on l'a rapproché parfois du chimpanzé. Mais si on étudie l'anatomie de ce crâne, on constate que le foramen magnum, c'est-à-dire le trou occipital, qu'il faut communiquer le cerveau avec la moelle épinière, est bien situé sous le crâne, ce qui est un caractère en principe d'hominidé. Et ce crâne a été daté, pas directement, mais par la biostratigraphie, par les faunes qui y sont associées, qu'on peut comparer à des faunes découvertes en Afrique de l'Est, de 7 millions d'années. Et naguère, il y a quelques années, plus d'une dizaine d'années, des biologistes moléculaires avaient calculé, avaient estimé, en partant de la distance génétique entre l'homme et les grands singes, avaient estimé que la divergence entre l'homme et les grands singes devait se situer vers 6 millions d'années. Et ce crâne, vous voyez, de 7 millions d'années, est un peu le fossile, est un peu, en quelque sorte, venu au rendez-vous du calcul des biologistes moléculaires. Alors, nous sommes ici avec un crâne très archaïque, une capacité crânienne proche de celle des grands singes, très proche du point de divergence entre le phylum qui va vers les hominidés et les phylums qui vont vers les grands singes. Et puis, on a beaucoup d'autres fossiles en Afrique de l'Est. En particulier, il y a un fossile qui a été trouvé par Brigitte Senu, qu'elle a appelé Aurorhynchogenensis, qui date de 6 millions d'années, donc qui est un peu plus récent. On n'a que des os du squelette prosécéphalique, mais un fémur birectiligne, qui permet de penser qu'il s'agit d'un hominidé. Puis on a des fossiles qui datent de 5,5 millions d'années, qui ont été trouvés par nos collègues éthiopiens, comme l'Ardipithecus Kadaba, qui date de 5,5 millions d'années. Et enfin, a été trouvé, toujours en Afrique de l'Est, dans la Moen Valley de la Wash, près d'Aramis, un squelette presque complet d'un individu de petite taille, qui a été appelé Ardipithecus Ramidus, qui est un petit bonhomme, qui marchait debout, mais qui avait que 80 cm de hauteur. On ne peut pas estimer sa capacité crânienne car, pour l'instant, le crâne est assez cassé. Et puis, à partir de 4 millions d'années, on a maintenant beaucoup de crânes, beaucoup de fossiles, qu'on a appelés Australopithecus afarensis ou parfois Australopithecus anamensis, car il est difficile de différencier ces deux types de fossiles. Mais on a beaucoup de crânes, avec des crânes d'individus féminins comme celui-là, qui s'appelle L444, et d'autres d'individus de sexe masculin qui ont une crête sagittale, et on en a beaucoup, et l'Australopithecus afarensis est bien connu par un squelette presque complet, qui date de 3 100 000 ans, et qui s'appelle Lucie. Alors, c'est Australopithecus afarensis, un âge compris, grosso modo, entre 4 millions d'années et 2 millions d'années. Et, en fait, c'est très complexe, car il y a beaucoup d'autres formes, comme appelé par exemple Kenyapithecus, Platyops, etc. Et on sent qu'entre 4 millions et 2 millions d'années, il y a toutes sortes de phylums, une sorte de radiation, toutes sortes de phylums qui se mettent en place et qui sont tous des primates bipèdes. Mais ces primates bipèdes sont pas encore parfaitement bipèdes, et l'étude de leurs membres postérieurs, mais aussi l'étude de leurs membres antérieurs, permet de dire, pour les paléanthropologues qui les étudient, qu'ils pouvaient être encore occasionnellement arboricoles. Et ce qui le prouve, c'est que leur marche bipède n'était pas parfaite, puisqu'on connaît à l'étolile une empreinte de pied de ces Australopithecus afarensis. D'ailleurs, ces empreintes de pied ont été trouvées associées à des mandibules fossiles d'Australopithecus afarensis qui datent de 3 700 000 ans et qui montrent qu'ils marchaient en croisant les jambes, un peu comme les mannequins. C'est-à-dire que leur pied gauche est situé dans les empreintes à droite de leur pied droit, et leur pied droit est situé à gauche de leur pied gauche. Ils marchaient en se dandinant, mais c'était pas pour faire du genre, c'est parce que leur station érigée bipède était pas encore parfaite. Et puis, d'autres fossiles, c'est une radiation, il y a l'Australopithecus africanus, qui est pas très loin des Australopithecus afarensis ou des Australopithecus amensis, qui lui a été trouvé dans une grotte d'Afrique du Sud, dans le site de Sterkfontein, pas très loin de Johannesburg. Alors tous ces Australopithecus, ces formes très anciennes, ce sont les premiers hominidés, avec des hominidés très archaïques, Sahelanthropus tchadensis, Ardipithecus ramidus, des formes un peu plus évoluées qu'on appelle Australopithecus afarensis, Australopithecus amensis, Australopithecus afrensis, Kenyapithecus platyops, etc. Toutes ces formes sont bipèdes, occasionnellement arboricoles. Ils ont une capacité crânienne qui dépasse jamais 450 cm cubes, qui est même beaucoup plus basse pour les plus anciens. Ils avaient un régime végétarien, ils consommaient des racines, des fruits, des graminées, ce qui explique l'extrême usure de leurs dents. Et l'étude de l'usure dentaire, en particulier des stries sur les dents jugales externes, montre qu'ils étaient végétariens. D'autre part, l'étude anatomique de leur crâne permet de penser qu'ils n'avaient pas encore la possibilité d'avoir un langage articulé. En effet, si l'on fait un moulage de la face interne du crâne, on peut avoir une bonne image de la surface du cerveau, et on ne voit ni l'aire de Broca sur la première circonvolution frontale gauche, ni l'aire de Wernicke sur la circonvolution temporale gauche. D'autre part, la base du crâne est bien plate, et il semble que le pharynx et larynx ne soient pas encore descendus. D'autre part, ils ont un palais peu profond et la langue avait peu de place dans la cavité buccale pour émettre des sons articulés. Et surtout, on n'a jamais trouvé, associé intimement aux Australopithèques, très anciens, antérieurs à 2,5 millions d'années, d'outils taillés, incontestablement taillés. Alors, les premiers hominidés un peu plus évolués apparaissent vers 2,5 millions d'années. On en connaît beaucoup plus à partir de 2 millions d'années, et ils ont été appelés Homo habilis. Alors Homo habilis, c'est un terme commode pour regrouper des hominidés qui ont une capacité crânienne qui dépasse maintenant 600 cm cubes, donc un peu plus importante, qui marchaient debout et qui marchaient bien debout. D'ailleurs, on a trouvé des pieds, des ossements du pied qui montrent qu'ils avaient une voûte plantaire antéro-postérieure, une voûte plantaire transversale, et l'étude de leur squelette, de leurs membres postérieurs, de leur membre antérieur, montre qu'ils étaient certainement parfaitement bipèdes. Ce sont les Homo habilis. Et l'étude anatomique de leur crâne permet de dire que toutes les caractéristiques anatomiques pour l'existence d'un langage sont réunies. En particulier, si on fait un moulage de l'intérieur du crâne, on peut mettre en évidence, le professeur Tobias l'a démontré depuis longtemps, qu'il existe déjà l'aire de Broca, l'aire de Wernicke. D'autre part, on assiste au début de la flexure de la base du crâne, la flexure antéro-postérieure, ce qui implique une descente du larynx et du pharynx, et la mise en place de la caisse de résonance pour émettre les sons articulés. Alors, ce sont eux qui ont fabriqué les premiers outils. Or, ces premiers outils sont extrêmement archaïques. Il y a une peu de diversité des pièces. Et là, je vous présente un site qui est situé dans le nord-est de l'Éthiopie. C'est le site de Gona. Kada, c'est la rivière. La rivière Gona. Kada, Gona. Et dans le nord-est de l'Éthiopie, dans la région de Gona, on connaît beaucoup de sites, dont là, j'ai compris, entre 2 600 000 et 2 500 000. Et ils avaient une industrie des archaïques, ils comprennent. C'est-à-dire un galet, une hache de pierre, un galet sur lequel une arête tranchante a été ménagée, généralement sur une seule face, parfois sur les deux faces, mais c'est rare. On appelle ça des chopères. Et d'ailleurs, ce chopère a servi aussi de percuteur, puisque vous voyez, à la base, il y a des stigmates d'écrasement. C'est à la fois une hache de pierre pour casser peut-être les os, désarticuler des carcasses de grands herbivores, et qui servait aussi à casser. Et puis, il y a des nucléus, c'est-à-dire des petits blocs de galets qui servent à détacher des éclats. Et de tout petits éclats, en général de 2 cm, 3 cm de côté, très petits, qui ne sont jamais retouchés. Donc le bord n'a jamais été modifié intentionnellement. Il n'y a pas de racloir, pas de grattoir, pas de denticulé. C'est des éclats avec un simple tronchon. Alors les proportions de ces pièces, c'est à peu près 4-5% de galets aménagés. On a souvent parlé de industrie à galets aménagés, mais en fait les galets aménagés sont relativement rares. C'est qu'à l'origine, on ramassait pas tous ces petits éclats. C'est Louis Liquet qui a créé le terme de pebble culture. Il ramassait les galets aménagés, il remarquait pas ces tout petits éclats. En fait, dans des fouilles modernes, bien fouillées, on voit qu'il y a des galets aménagés à peu près 5% maximum. Pas mal de nucléus, 10-15% de nucléus, et des petits éclats. Et ces des éclats sont des objets manufacturés. Et les plus anciens datent de 2 550 000 ans. Ils ont été trouvés à Gona, entre deux dépôts volcaniques. À la base, il y a des cendres volcaniques, qui ont été datées par le potassium argon de 2 600 000 ans. Au-dessus du site Gona-Eugédis, il y a d'autres tuves volcaniques qui datent de 2 500 000 ans. Et entre les deux, on peut penser que ces outils ont un âge d'environ 2 550 000 ans. Et on peut dire que, statistiquement, on pourrait dire que c'est le début des premiers outils manufacturés. En effet, si on se promène en Éthiopie, au Kenya, en Tanzanie, on peut trouver des centaines, des milliers de sites paléontologiques. Et sur tous les sites paléontologiques antérieurs à 2 500 000 ans, nous avons fait personnellement beaucoup de prospections dans la région de Fezzes, où il y a des sites qui vont de 5 millions d'années jusqu'à 100 000 ans. Dans les sites qui sont plus anciens que 2 millions et demi d'années, on a toujours trouvé des sites paléontologiques, beaucoup de faune, énormément de faune. Il y a à peu près 95%, 90-95% d'ossements de grands herbivores, 5% d'ossements de carnivores. Si vous avez beaucoup de chance, vous pouvez trouver un petit bout d'hominidé, une dent, un petit bout de crâne. Si vous avez encore plus de chance, une mandibule. Mais ça, c'est assez rare, mais on en trouve. Et c'est tout. Par contre, dans des sites plus récents que 2,5 millions d'années, on en a une bonne expérience à Fedjes, par exemple, dans le sud de l'Éthiopie, où il y a des centaines de sites. On trouve non seulement 95% de grands herbivores, 5% d'ossements de grands carnivores. Si vous avez beaucoup de chance, des bouts d'hominidés, des petites dents d'homoiabilis, par exemple. Mais en plus, pas toujours, mais dans 75% des cas, il y a une multitude d'éclats taillés. L'outil a fait son apparition. Et l'outil témoigne, selon moi, de l'émergence de la pensée conceptuelle. On a parfois dit, on dit souvent, que les grands singes ont des outils. Pour moi, ce ne sont pas des outils, c'est des objets utilisés, un galet utilisé. Si un jour vous allez au bord d'une plage avec votre sac de noix, vous prenez un galet, vous cassez le noix. J'espère que vous n'aurez pas la prétention de vous dire que vous avez fabriqué un outil. L'outil, en fait, témoigne de l'émergence de la pensée conceptuelle et il s'inscrit dans une chaîne opératoire. En effet, on peut mettre en évidence, dans ce tige, là je vous présente les outils d'un autre site, vous voyez, c'est pareil, c'est le site de Fedjes, dans le sud de l'Éthiopie, à 5 km au nord de la frontière du Kenya, dans un endroit désert, perdu. Et vous avez des chopères, vous voyez, qui représentent à peu près 5% de l'outillage, en bas. À droite, au milieu, le numéro 4, c'est un nucléus, c'est-à-dire un bloc de matière première qui a servi à extraire des éclats. Et puis des petits éclats, vous voyez, tranchants, mais qui ne sont jamais retouchés. Il n'y a pas de modification du bord, un raclore, un denticulé. Il y a parfois, par contre, des esquilles sur le bord qui prouvent que ces éclats ont été utilisés. L'outil inventé par ces homoabilis s'inscrit dans une chaîne opératoire. Il faut concevoir un modèle en fonction d'un projet, et un projet qui n'est pas immédiat, qui est reporté dans le temps. Pour fabriquer cet outil, on va chercher un bloc de matière première. Et on va dans la rivière, à Fedjes, c'était à une dizaine de kilomètres, et on ramasse dans les graviers de la rivière des galets. Et alors que dans la rivière, il y a 30% de galets de quartz, 30% de galets de basalte, 30% de galets granite, ils ont ramené sur leur campement 95% de galets de quartz. Donc ils ont fait de la pétrographie. Ils ont choisi du quartz parce que ça permet d'avoir des bords plus tranchants qu'un basalte ou un granite. D'autre part, dans la rivière, il y a surtout des galérons ou ovalaires. Si vous allez voir une rivière, vous voyez qu'il y a des galérons ou ovalaires. Eh bien, sur le site, ils ont ramené des éclats cubiques ou subparallélépipédiques. Parce qu'il y a un méplat, et qu'un méplat, c'est un plan de frappe naturel pour faire partir un éclat. Donc, ils faisaient à la fois de la pétrographie et de la morphologie. Il est transporté sur leur habitat. Et pour la première fois, on n'a jamais mis en évidence le campement de base d'Australopithèque. Pour la première fois, il y a des campements de base. Et sur le campement de base, ils taillent le bloc de matière première, ils le débitent pour faire un outil qui a été conçu à l'avance, selon des stratégies de débitage très élaborées. La taille unifaciale, la taille bifaciale, unipolaire, bipolaire, centripète, périphérique. Et d'ailleurs, je pense que non seulement chez les automobilistes, toutes les conditions anatomiques pour l'existence, le langage articulé sont réunies, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais en plus, pour savoir faire un outil, il faut transmettre un savoir-faire. Je pense que ce savoir-faire complexe ne peut pas être fait par la simple imitation et qu'il a fallu un autre outil pour le transmettre. C'est un langage, certainement, un langage très rudimentaire. Et on peut dire qu'avec ces deux acquisitions fondamentales, l'invention de l'outil et l'apparition du langage articulé a débuté à 2 500 000 ans, l'extraordinaire aventure culturelle de l'homme. Et cet outil fabriqué était fabriqué en fonction d'un projet et ils transportaient ce éclat, l'endroit où ils allaient s'en servir, qui est des fois beaucoup plus loin. C'est ainsi que Kenya, le Chikiposide, mais aussi en Tanzanie, mais aussi en Éthiopie, mais aussi, vous verrez tout à l'heure, en Europe. On a trouvé autour d'un squelette d'hippopotame, par exemple, c'est le cas d'hypocyte au Kenya, un squelette d'hippopotame complet dont les os sont encore en connexion anatomique. Mais autour de ce squelette, il y a de petits éclats de taille comme ceux d'en haut. Il n'y a pas de nucléus, parce que les nucléus sont sur les sols d'occupation. Des petits éclats comme cela. Et puis, des coprolites de hyènes. C'est-à-dire qu'on peut penser que des hommes, des homo habilis, sont venus pour récupérer de la viande qui restait sur un grand herbivore. En effet, vers 2 500 000 d'années, à partir de 2 500 000 d'années, le climat de l'Afrique de l'Est s'assèche. Les prairies se développent. Les troupeaux de grands herbivores peuvent être de plus en plus nombreux, de plus en plus opulents, de plus en plus abondants. Et il y a deux grands carnivores qui les guettent. C'est le tigre à dents de sabre, on l'appelle Homo therium, et une panthère géante avec des grosses canines qu'on appelle le méganthérion. Ils devaient abattre, ils avaient le choix, il y avait beaucoup de grands herbivores. Repus, ils abandonnaient des carcasses de grands herbivores pour d'un lac, d'un étang, d'une rivière. Et il y avait deux charognards qui venaient, qui étaient en compétition pour avoir accès à la carcasse. C'était la hyène géante, Pachycrocuta brevirostris, et l'homme. Et ce qui le témoigne, c'est qu'autour de ces carcasses de grands herbivores, on trouve souvent mélangés des coprolites de hyènes et quelques éclats qui devaient servir à récupérer la viande. Et ces outils, les chopères devaient servir à désarticuler les carcasses de grands herbivores, devaient aider à casser les ossements pour prendre la moelle, car ils étaient friands de moelle, et les petits éclats devaient servir à racler la viande qui restait sur ces ossements de grands herbivores. Alors le site de Fedjez, le site de Gona a été daté de 2 500 000 d'années, et le site de Fedjez est daté de 2 000 000 d'années. Vers 1 800 000 ans, il existe encore des homo habilis, ils se développent. D'ailleurs, il y a la période où on trouve le plus d'homo habilis, mais après apparaît déjà une autre forme, un peu plus évoluée, vous voyez, il a un front un peu plus haut, mais un bourrelet de orbites qui devient un peu fort, c'est un ancêtre de l'homo erectus, qu'on a appelé homo rudolfensis. Mais les premiers qui ont quitté le berceau africain de l'humanité, c'est une forme plutôt d'homo habilis. Et ici, vous voyez l'homo georgicus, qui a été baptisé par ma femme, Marie-Antoinette, qui a été trouvé en Géorgie. Alors on peut dire que les hommes ont quitté le berceau africain, sans doute avant d'être devenus des homo rudolfensis, avant même l'apparition des homo rudolfensis. Et on sait que l'homme, fabricant d'outils, est présent en dehors d'Afrique, dans le couloir palestinien, dans le nord d'Israël, sur un site qui s'appelle Iron, puisqu'à Iron, on a trouvé des outils taillés en quartz sous une coulée de basalte qui a été datée par le potassium argon de 2 000 000 d'années. Donc, l'homme fabricant d'outils est présent en Afrique de l'Est depuis 2 550 000 ans, et il est déjà en dehors d'Afrique, dans le couloir palestinien, de 2 000 000 d'années. Et récemment, a été trouvé dans le couloir géorgien, c'est-à-dire dans ce couloir qui est entre le Grand Caucase au nord et le Petit Caucase au sud, qui relie la mer Caspienne à l'est à la mer Noire à l'ouest, sur les pentes du septentrional du Petit Caucase, un site extraordinaire qui s'appelle le site de Manissi, qui a été découvert sous un village du Moyen-Âge. qui a été fouillé par des médiévistes. Et dessous, il y a des dépôts faits, dont les fouilles sont conduites par nos collègues géorgiens, le professeur Lavidor qui panisait, mais on a collaboré à ses travaux. Et on a la chance d'avoir trouvé sur ce site, qui date de 1 810 000 ans, car la plupart des ossements ont été trouvés dans des cendres volcaniques qui reposent sur une coulée de basalte. À la base, il y a une coulée de basalte qui date de 1 850 000 ans. Cette coulée de basalte est recouverte par des cendres volcaniques qui correspondent à une éruption différente, d'ailleurs, il n'y a pas les mêmes formules chimiques, qui datent de 1 810 000 ans. Et là, dans une espèce de cuvette de basalte, a été trouvé 5 crânes, pratiquement entiers, 4 mandibules et de nombreux ossements du squelette. Et on peut dire qu'il y a des individus de tous les âges. C'est comme si une famille avait été détruite brutalement au même endroit. Et on peut se demander s'ils ont inspiré des cendres qui se sont mélangées à leur sécrétion buccale et ils sont morts peut-être asphyxiés, comme d'ailleurs beaucoup d'autres ossements d'animaux. Alors vous voyez, l'Homo georgicus est très proche des Homo habilis les plus évolués, comme l'Homo rudolfensis, et pas encore aussi évolué, et pas encore, ce n'est pas encore un Homo erectus. C'est une forme intermédiaire entre les Homo habilis et l'Homo erectus. Et Marie-Antoinette, mon épouse, les a appelés Homo georgicus. Et Anne-Man ici, sur ce site où on a trouvé les réseaux machines, on trouve exactement la même industrie qu'à Gona, qu'à Fedjez et dans beaucoup d'autres sites africains. On trouve des chopeurs, des nucléus, et puis ces éclats de taille qui ne sont pas retouchés ou qui parfois présentent de toutes petites ébréchures car ils ont été utilisés pour enlever de la viande sur des ossements. D'ailleurs, on peut étudier à la loupe binoculaire et aussi au microscope électronique à balayage les traces d'usure et de reconstituer, de retrouver la fonction de ces éclats. Alors là, je vous présente notre site. Alors, je recommence. 2,5 millions d'années, l'homme invente l'outil en Afrique de l'Est. 2 millions d'années, il est au Proche-Orient. 1 810 000 ans, il est en Géorgie. La Géorgie, c'est pas tout à fait l'Europe, mais on est aux portes de l'Europe. Et on va le retrouver à partir de 1 400 000 ans, 1 500 000 ans, sur les rivages méridionaux de la Méditerranée. Il y a un site extraordinaire qui a été trouvé l'année dernière, qui est situé en Italie, sur la côte adriatique, pas loin du monte Gargano, où, dans une grotte qui s'appelle Pironor, a été trouvé quelques éclats de taille, un nucléus, quelques éclats de taille, non retouchés, non aménagés en outils, plus élaborés, associés à une faune qui date d'environ 1 400 000 ans. On peut donc dire que l'homme est arrivé sur les bords de la Méditerranée vers 1 400 000 ans. Et alors là, je vous amène maintenant en Andalousie, dans un site qui est situé à environ 80 km ou 100 km au nord-est de Grenade. C'était l'endroit, ce qu'on appelle le bassin de Guadix-Baza. C'était à la fin du Miocène, tout le Pliocène, et au début du Quaternaire, même pas une longue partie du Quaternaire, jusqu'à 400 000 ans. Un immense lac, car c'était un bassin doréique, il n'y avait pas d'exutoire et toutes les eaux de pluie restaient dans ce lac. Un jour, ce lac s'est asséché parce que ce bassin doréique est devenu un bassin exoréique, parce que tous les affluents qui arrivaient dans ce bassin ont été captés par le fleuve Guadalquivir. Et alors là, vous voyez des dépôts lacustres. C'est des dépôts, des sédiments lacustres qui sont sur une très grande épaisseur. Et dans ces dépôts lacustres, il y a des faunes de nombreuses époques, du Miocène, du Pliocène et du Quaternaire jusqu'à 400 000 ans. Il y a plusieurs niveaux. Et pour les paléontologues, c'est un endroit extraordinaire parce qu'on peut suivre l'évolution de la biodiversité, les variations de faune pendant plusieurs millions d'années, de 10 millions d'années, disons, jusqu'à 400 000 ans. Et dans des niveaux qui datent de 1 200 000 ans, là où il y avait ces grandes baraques, vous voyez, c'est une couche qui date de 1 200 000 ans, a été trouvé des outils taillés. Et c'est des couches qui ont été datées de 1 200 000 ans. Et il y a deux sites, le site de Barranco-Léon, je vous présente Barranco-Léon, mais un peu plus loin, dans un autre endroit qui date aussi de 2 200 000 ans, le site de Fuentes-Nuevas, où ont été trouvés des outils. Et alors, on peut reconstituer la paléogéographie. Il y avait le lac de Baza qui était immense. Là, vous avez au premier plan des collines jurassiques, avec d'ailleurs du silex, des nodules de silex dans le calcaire. Et entre le lac de Baza et le massif de calcaire jurassique, il y avait des marécages. Et vous voyez les deux sites, Barranco-Léon à gauche, à l'ouest, Fuentes-Nuevas à l'est, qui sont situés tout près du bord du lac, dans les zones de marécages. Et là, on a beaucoup d'ossements, de faune entière, et on a trouvé, par exemple, Ah bah, on collait un hippopotame complet, un squelette d'hippopotame complet. On a trouvé à Fontainebleau-Vertois un squelette d'éléphant méridional complet, hein, les faces méridionalis complet. Et autour de du squelette d'éléphant méridional, par exemple, il y avait un éléphant méridional complet où il manquait pratiquement pas d'os. Et autour de cet éléphant, on a trouvé 16 petits éclats de silex et de nombreux coprolites de hyènes. Là aussi, il y avait une compétition entre la hyène géante et ses premiers habitants de l'Europe. Malheureusement, pour l'instant, ni à Bancolion, ni à Fontainebleau-Vertois n'ont été trouvés des outils. Mais vous voyez, toujours la même industrie. Alors, nous avons appelé toutes ces industries très archaïques le pré-holdoboyen. Le pré-holdoboyen qui apparaît en Afrique de l'Est 2,5 millions d'années, qui est présent en Géorgie, au port de l'Europe, il y a 1,8 million ans, et qui se retrouve sur les rivages de l'Europe depuis 1,4 million ans à Pyrénées ou 1,2 million ans à Barancoléon et à Fontainebleau-Vertois en Andalousie. Alors, ça ne veut pas dire que c'est la même culture, mais ça veut dire que c'est un comportement identique d'hominidés très archaïques qui sont des charognards. Et ce qui confirme que ce sont bien des charognards, c'est que dans ces sites, on trouve, dans un site comme la Côte de l'Aragote Hôtel, que je vais vous présenter tout à l'heure, on trouve une forte proportion, parmi les ossements d'animaux qui ont été chassés, d'adultes jeunes ou d'adultes. Par contre, on n'a pas du tout les mêmes courbes d'âge de ces formes très anciennes. Il y a beaucoup d'animaux âgés, il n'y a pas une dominance écrasante des adultes jeunes ou des adultes. Ces hommes sont aussi présents sur toutes les rivages méditerranéennes. Et j'avais fouillé il y a très longtemps un site qui s'appelle la Grotte du Vallonnet, qui est situé dans la baie de Menton, sur le territoire de la commune Roquebrune-Cap-Martin. C'est une grotte toute petite, une sorte de galerie très forte. Et au fond de cette grotte, j'avais trouvé beaucoup d'ossements d'animaux. En fait, cette grotte était habitée par des grands carnivores. On a trouvé, elle était habitée par des ours, surtout des ours, ours de Niger, mais elle était parfois habitée par le tigre à dents de sabre, elle pouvait être habitée par des panthères. D'ailleurs, cette grotte a servi même de nurserie de panthères, parce qu'on trouve plein de dents de lait de panthères. Mais quand l'homme n'était pas là, c'était des hommes qui venaient habiter la grotte. D'ailleurs, quand j'ai étudié cette grotte, c'était début des années 60, on fouillait avec ma femme, il y a beaucoup de préhistoriens qui ne croyaient pas, ils disaient, c'est pas possible qu'il y ait des outils si anciens en Europe. Et certaines personnes, en particulier un chercheur de Hollande, avaient mis en doute l'existence en disant que c'est pas taillé. Pourtant, si vous voyez, bien, c'est des éclats taillés avec un bulbe, un talon, toutes les caractéristiques des pièces taillées. C'est la même industrie qu'on peut dire pré-holdoboyenne. Il y a aussi des os qui sont pas des os taillés, mais qui ont servi de percuteurs. Et la grotte du Vallonnet est datée entre 1,5 million et bien datée d'ailleurs par les datations absolues, par la résonance de spin électronique, mais aussi par le paléomagnétisme. Ça correspond à une période positive à l'intérieur d'une longue période négative qu'on appelle l'épisode de Jaramillo, qui se situe entre 1,5 million et 1 million d'années. Alors là, je voudrais maintenant vous passer à une autre étape. C'est des sites plus récents en Europe. C'est des sites qui ont suivi des cultures acheuliennes, c'est-à-dire des industries qui présentent des bifaces. Alors, le biface apparaît en Afrique de l'Est vers 1,5 million ans, à Conso. En Europe, il n'y a pas de bifaces qui sont si vieux. Et ils sont présents en Chine vers 900 000 ans. Dans le site de Yunxian, 930 000 ans à peu près, il y a déjà des bifaces. Et en Europe, ils ne sont pas présents avant 600 000 ans. Mais le biface a été l'outil des premiers peuples chasseurs. Car le biface, si vous voulez, si vous abattez un grand herbivore, un bison, un cheval, il faut découper son poitrail. Ce n'est pas un petit éclat qui va vous permettre de couper le poitrail. Alors on fabrique des outils pointus, avec deux bords tranchants, de grande longueur, et c'est l'outil du chasseur. Alors ces chasseurs européens, on les connaît par deux sites. Actuellement, il n'y a que deux sites qui ont livré des restes humains très anciens en Europe, en vraie Europe, à part la Géorgie. C'est un site qui est situé en Italie, dans le Latium, au sud de Rome, entre Rome et Monte Cassino, par exemple, qui est le site de Ceprano. Alors le crâne de Ceprano est situé dans des dépôts qui sont dans un paléomagnétisme inverse, c'est-à-dire qu'ils sont forcément plus vieux que 730 000 ans. Et puis alors, un autre site qui a livré des hommes très anciens, alors celui-là, il est en Espagne. C'est un endroit extraordinaire qui s'appelle la Sierra de Atapuerca. La Sierra de Atapuerca est située à 10 km au nord-est de Burgos. Et là, c'est une immense massif calcaire dans laquelle il y a une grande quantité de cavernes, très nombreuses cavernes. Et là, vous voyez, à une époque, on avait creusé une tranchée, que c'est pour ça qu'on l'appelle la tranchera, de chemin de fer, pour transporter des minerais. Mais on l'a abandonné, on a enlevé les rails, et maintenant on s'en sert pour circuler. Et cette tranchée a coupé de nombreuses grottes. C'est ainsi que le site a été découvert. Et dans un site qui est derrière cet échafaudage, qui s'appelle la Gandoline, a été trouvé dans une couche qui est inverse aussi, le paléomagnétisme inverse, qui est donc plus vieille que 780 000 ans, a été trouvé des restes d'hommes fossiles, et en particulier ce crâne. Ce crâne, qui, malheureusement, c'est un enfant, donc on ne peut pas bien étudier ses caractéristiques anatomiques. Et on a trouvé non seulement ce crâne, cette mandibule et ce maxillaire, mais on a trouvé actuellement une centaine de restes. On a trouvé encore l'été dernier, il y a à peu près une centaine de restes. C'est que des jeunes, il y a 5 individus, et parmi ces 5 individus, il y a 3 enfants et 2 jeunes adultes. Et tous ces os sont cassés, brisés, et la plupart des os présentent de stries de découpage. Et manifestement, nous sommes dans un lieu de cannibales qui consommaient des jeunes, des enfants ou des adolescents. Hein, c'était, on peut dire, de fin gourmet, vous voyez. Et une industrie qui est différente. Alors, en Afrique, on a appelé, en Afrique de l'Est, à partir de 1 800 000 ans, apparaît une industrie qui serait avec des chopeurs, des nucléus, des éclats, mais apparaissent des éclats retouchés. Et on l'a appelé l'Oldowaya. L'Oldowaya apparaît vers 1 800 000 ans en Afrique de l'Est. Mais dans Gandolina, comme à Sepano d'ailleurs, je ne vous ai pas montré les industries Sepano, on voit toujours des chopeurs, des nucléus, des éclats, mais en plus, il y a des éclats retouchés qui sont des aménagements par retouche du bord de l'éclat, ce qu'on pourrait appeler Eldoboya. Je ne veux pas dire que l'Eldoboya est une culture qui va de l'Europe à l'Afrique, mais ça correspond à un comportement différent, un mode de vie différent, et on aménage le bord de l'éclat pour faire retouche, et ces industries à éclats retouchés sont un peu plus anciennes que 800 000 ans en Europe, à Sepano, à Gandolina, TD6, le numéro de la couche, et, qui sont beaucoup plus anciens en Afrique. Alors maintenant, je voudrais vous amener, vous visiter un site qui m'est cher, que certains d'entre vous connaissent, Madame Potier connaît, et monter à la grotte. Et c'est, vous êtes, la trait de la Côte de l'Arago. La Côte de l'Arago est un site qui est situé dans le sud de la France, à 30 km au nord de Perpignan. Et c'est une grotte qui domine à peu près de 80 mètres le lit actuel de la rivière, qui s'appelle le Verdouble, qui est un affluent de la Gly, l'un des 3 fleuves côtiers du Roussillon. Alors, si un jour vous venez dans le sud de la France, près de Perpignan, je vous encourage à prendre l'autoroute qui va, par exemple, de Narbonne à Barcelone. Et quand vous voyez sur la route le panneau Totavel, moins 450 000 ans, prochaine sortie, bien vous êtes tout près de Totavel et vous pouvez venir visiter le site de la Côte d'Arago à Totavel. Il faut avoir de bonnes chaussures pour monter 80 mètres. Ou le musée de préhistoire Totavel, c'est plus facile à visiter. Où vous pourrez rencontrer l'homme de Totavel, on pourrait dire en chair et en os, parce qu'il a été reconstitué par Elisa Benden, là, qui est au premier rang. Alors voici le chantier de fouilles. Chaque année, nous organisons dans cette grotte des fouilles qui durent du 1er avril au 31 août. J'ai commencé à fouiller le site de la Côte d'Arago en 1964, ouais, il y a plus de 40 ans, et il y en a encore pour des générations. Et chaque année, on trouve de nouveaux restes humains, beaucoup de faune, beaucoup d'outils taillés. Et nous avons fait un musée à Totavel, pour conserver ce matériel extraordinaire. Alors, voici l'homme de Totavel. Alors, vous voyez quand même qu'il est mieux que les prédécesseurs. Il a plus d'allure quand même. Alors, il a quand même un front fuyant et une face qui se projette un peu en avant. Voilà, si vous le voyez de profil, si vous regardez vos voisins et vos voisines, ils sont différents quand même. Vous voyez, il n'avait pas de paroi verticale de sous-orbite. Il avait un front fuyant, mais il a quand même un front. Il a un bon bourrelet de sous-orbite. Il a une face prognate qui se projette en avant du crâne. Il a des caractères comme un petit bourrelet là qui est en bas du pariétal à gauche, qu'on appelle le torus angularis, qui est un caractère d'Homo erectus. C'est un Homo erectus européen qu'on appelle aujourd'hui l'Homo heidelbergensis, du nom de la première découverte qui a été faite à Moer, la mandibule de Moer, près d'Heidelberg. Alors, vous voyez, ce fossile, je l'ai découvert le 22 juillet 1971. Je peux vous dire même à 15h de l'après-midi, je m'en rappelle encore. Et en fait, c'est mon 5e enfant. Mais il a le même âge que mon 4e. D'ailleurs, quand la maîtresse de mon fils, de William, demandait quel âge il avait, il disait « J'ai le même âge que l'homme de Totavel. » Il est quand même beaucoup plus. Il a maintenant une capacité crânienne de l'ordre de 1150 cm3. Vous voyez, c'est déjà une forme beaucoup plus évoluée. Et l'homme de Totavel était un grand chasseur. Alors, vous voyez, il transporte un mouflon, parce que on a des niveaux, c'était surtout des chasseurs de mouflons, mais il y a aussi des niveaux où c'est d'autres chasseurs. Ici, par exemple, nous avons une couche qui a été datée de 550 000 ans. On s'aperçoit que c'est des ciments qui ont été apportés par le vent. Ce sont des grains de sable qui viennent par leur contexte, par leurs caractéristiques de leur cortex pédographique et minéralogique, qui ont été arrachés à la plaine de Totabel, 80 mètres en contrebas, qui ont été transportés dans la grotte. Et on a fait des essais dans une veine hydraulique au centre de la météorologie nationale à Toulouse. On a pu mettre en évidence que c'était des vents qui venaient du nord-ouest et en fonction de la taille et du poids des grains, qui devaient souffler à plus de 130 km de moyenne. Si on étudie les pollens de ces couches, on s'aperçoit qu'il y a moins de 15% de pollen d'arbre. Donc un paysage désolé, vous voyez, balayé par une paléotramontane qui soufflait à plus de 130 km de moyenne. Et tous ces ossements, 95% de ces ossements, c'est des ossements de rennes. Le renne vivait alors en Roussillon, sur les bords de la Méditerranée, il y a 550 000 ans. Alors là, je vous présente une autre couche qui est un peu plus haute et qui, elle, est datée de 500 000 ans. Pour des géologues, on dira que c'est le stade isotopique 13, qui est une période de réchauffement. Si on prend un peu d'argile de ces couches-là, on s'aperçoit que ce n'est pas des argiles qui ont été apportées par le vent, des sédiments qui viennent de la plaine, mais c'est des sédiments qui correspondent au cortège pictographique et minéralogique qu'on trouve sur le plateau, qui sont de vieilles alluvions, oligocènes ou miocènes, qui sont sur le plateau, et qui ont été apportées par le ruissellement, donc un climat humide. Si on étudie les pollens, on trouve plus de 75% de pollens d'arbres, donc un climat forestier. Et tous ces ossements que vous voyez, ce sont des ossements de cerfs ou de daims, c'est-à-dire des animaux de forêt. Vous voyez que les données de la sédimentologie, de la palynologie, de l'étude des faunes sont en concordance. Un paysage humide, tempéré, avec une forêt c'est une chénémique d'ailleurs, avec du chêne blanc, de l'orme, de l'aulne, et des cerfs et des daims. Et puis, c'est un campement saisonnier temporaire. Alors que le précédent était plutôt une halle de chasse. Car ici, si l'on prend que les mandibules d'animaux jeunes, c'est-à-dire les mandibules de cerfs ou de daims de moins de 2 ans, et en tenant compte du stade d'éruption dentaire, on peut dire que c'est des animaux qui ont été abattus entre 4 mois et 7 mois, c'est-à-dire entre le mois de septembre et le mois de décembre. C'est-à-dire c'est un campement saisonnier de chasseurs, de cerfs et de daims, un campement saisonnier d'automne. Par contre, je reviens en arrière, ici, si on prend les mandibules d'animaux jeunes, on trouve des animaux qui ont juste 1 an ou juste 2 ans. On trouve pas des animaux de 0 ans parce que ça, les os des fœtus, ça se conserve pas bien, les animaux jeunes. Mais des animaux de 1 an ou de 2 ans. C'est-à-dire, c'est une halte de chasse qui a duré très peu longtemps et une halte de chasse du mois de mai au mois de juin, voyez, au moment où les rennes naissent. Et puis alors là, je vous présente un autre campement qui, lui, date de 450 000 ans, c'est-à-dire dans le campement dans lequel on a trouvé le crâne entier de l'homme Totabel. Mais il ne faut pas croire qu'à Totabel, on a trouvé qu'un crâne. Nous avons maintenant, je crois, 118 restes humains. Avec les découvertes de l'été dernier, nous avons trouvé 118 restes humains, les éléments de plusieurs mandibules, de plusieurs crânes, des os du squelette, etc. Et là, c'est le sol G qui date de 450 000 ans, un gros bloc de pierre qui a été ramené de l'extérieur pour servir d'enclume. Quelques gros galets qu'on a ramassés dans la rivière. Et c'est pas des outils, c'est des marteaux qui ont été ramassés à la rivière pour apporter pour casser. Vous voyez qu'il y a un galet là, qui a des présentes, celui qui est après, des stries d'écrasement, qui a servi de percuteur, et tout autour des ossements de chevaux brisés et fracturés, car les hommes étaient particulièrement friands de moelle, et ils ont récupéré de la moelle. C'est une steppe arborée. D'ailleurs, on trouve beaucoup d'ossements des animaux de prairie, des chevaux. On trouve aussi du renne, on trouve même du bœuf musqué. Le bœuf musqué est un animal qui vit actuellement au-delà du cercle polaire qui vivait sur le territoire, sur le bord de la Méditerranée. Dans les haltes de chasse, ou les campements saisonniers temporaires, ou les habitats de longue durée, car on a 2 habitats de longue durée, c'est-à-dire qui a duré plusieurs années, les hommes rapportaient, quand il s'agissait de rennes, de cerfs, de daims, les animaux entiers. Et on trouve le squelette complet, désarticulé mais complet. Quand il s'agit de cheval et de bison, il ramenait par quartier des tronçons. Et l'éléphant en a très peu, sans doute il devrait ramener que des toques de viande. On a un peu, des bouts de dents, des morceaux de défense, des morceaux de long, mais très peu. L'éléphant, il ne ramenait que des blocs de viande. Pour les petits animaux, enfin petits, comme le renne ou le cerf ou le daim, il ramenait l'animal entier dans la caverne. D'autre part, il y a beaucoup de femmes et d'enfants dans la grotte. Nous savons qu'il y avait des enfants. Nous savons qu'il y avait des enfants parce que, pas dans les haltes de chasse, mais dans les campements saisonniers temporaires et dans les habitats, dans les 2 habitats de longue durée, on trouve des dents de lait d'enfants qui ne sont pas morts. Ils sont morts depuis, mais qui n'étaient pas morts au moment où ils ont perdu leurs dents. C'était des dents tombées naturellement, des dents de lait tombées naturellement. Donc, s'il y avait les petits-enfants, il y avait aussi leur maman. Donc, dans les campements de longue durée et dans les campements saisonniers, bref, c'est toute la famille qui vivait. Par contre, dans les haltes de chasse, ou dans de simples bivouacs, où il y a juste quelques os de bœuf musqué et quelques éclats, qui ont dû durer très peu de temps, il n'y a jamais de dents de lait d'enfant. C'est-à-dire qu'il n'y avait que les chasseurs. Alors, en visitant le musée de Tautavel, qu'on a réalisé avec Elisabeth Den, on a fait des dioramas et on n'a pas mis de femmes en train de chasser, de petits enfants, parce que, en fait, les femmes n'avaient pas le temps de chasser. Alors, on a dit que j'étais macho, mais je crois pas. Je crois que c'était les chasseurs qui chassaient. Ouais. Parce que les femmes n'avaient pas le temps. L'espérance de vie, c'était 20 ans, 25 ans. Et alors, bien sûr, à Tautavel, on a trouvé une très très vieille dame. Elle est morte à un âge canonique, elle est morte à l'âge de 40 ans. Mais ça, c'est vraiment exceptionnel. En général, l'espérance de vie dépassait guère 25 ans. Une femme, bon, disparaissait vers 25 ans. Et combien pouvait-elle avoir d'enfants dans sa vie? Pas plus de 10. Il y avait une forte mortalité infantile, elle devait en perdre la moitié à la naissance, il ne restait plus que 5. Après, il y a eu une forte mortalité à l'âge de 9 ans, ouais. Donc il en restait plus que 2, 2 et demi. Et pour assurer le renouvellement de génération, les dames n'avaient pas de temps à perdre. Il fallait ou qu'elles soient en train d'allaiter ou alors qu'elles étaient enceintes. C'est pour ça qu'on a mis beaucoup d'enfants, pas de foyer, beaucoup d'enfants à l'entrée de la grotte. Voilà, c'est un campement. Je voulais évoquer le campement d'un chasseur de mouflons qui date de 440 000 ans. Alors parfois, on trouve des bifaces extraordinaires. Des bifaces qui présentent une très belle symétrie bilatérale bifaciale, comme ce biface en quartz, qui date de 550 000 ans. Vous voyez, il est bien retouché, bien régulier. Il a été soigné. C'est pas parce qu'il est bien soigné qu'il est plus fonctionnel. D'autre part, parfois, les hommes ont choisi des roches de belles couleurs, des quartzites rouges, de l'obsidienne, du jaspe, pour faire de beaux outils. Et c'est pas parce qu'un outil est bien retouché et de belles couleurs qu'il est plus fonctionnel. C'est déjà la recherche de la beauté, l'émergence du sens de l'harmonie, l'émergence du sens de l'esthétique. Pour trouver du jaspe, il fallait que les hommes quittent la plaine de Tautavel, franchissent le col de Montredon, traversent un fleuve, l'Agly, franchissent le col de Bataille, traversent un autre fleuve, le Tête, et à 35 kilomètres, au sud-ouest de la côte de l'Arago, ils ramassaient ce jaspe. Et en général, quand ils ramenaient du jaspe dans la grotte, c'était pour faire un joli outil bien soigné, comme cette très belle pointe en jaspe. C'était vraiment, ils voulaient faire de belles pièces, ils avaient le sens de l'esthétique. L'étude de l'origine des roches pour fabriquer l'outil est très intéressante. À Tautavel, 80%, 85% des roches qui ont été taillées pour faire des outils ont été découvertes dans la Gly ou dans le Haut-de-Verdouble, au pied de la grotte, ou dans la Gly, à 5 km, des roches locales. Mais ils allaient parfois jusqu'à 30 km au nord-est, dans la région de Roquefort des Corbières, chercher du silex, lacustre, oligocène en plaquettes, parce que c'est un beau silex, qui se taille très bien, ou ils allaient à 30 km au sud-ouest, dans une région qu'on appelle aujourd'hui Vinça, chercher du jaspe. Mais ils n'allaient pas plus loin, on n'a jamais trouvé des roches qui viennent de plus loin. Leur territoire, c'était 30 km de rayon autour de la grotte, c'est-à-dire un territoire de 60 km de diamètre. 30 km de rayon, c'est ce que ça fait 60 km aller-retour, c'est ce qu'un bon marcheur peut faire dans une journée. Mais ces chasseurs d'éléphants, on les retrouve ailleurs. Ici, nous avons un site qui est situé en Espagne, en Ombrona, vous voyez. Alors, c'était peut-être pas des éléphants chassés, peut-être des éléphants qui étaient embourbés dans des marécages et que les hommes allaient découper. On connaît un autre site aussi, qui est situé dans le Latium, la Polédera de Secanibio, vous voyez, où il y a des quantités d'ossements d'éléphants, mais il y a plein d'outils autour. Et je pense que peut-être que là, c'est pas des éléphants vraiment chassés, où les hommes se débrouillaient de les faire embourber dans les marécages pour récupérer de la viande. Et alors maintenant, je vous présente un autre site que nous avons étudié en 1966. C'était une fouille de sauvetage. Il y avait des travaux de terrassement. Et en surveillant ces travaux de terrassement, on s'est aperçu que dans une dune littorale et dans une plage littorale qui était située dessous, il y avait des outils taillés de la faune. Alors, on a négocié avec l'entrepreneur, le promoteur, on a arrêté le chantier. On s'est débrouillé de faire stopper le chantier pendant 6 mois. On a pu fouiller la totalité du chantier. Et à la fin, d'ailleurs, on a fouillé 5 mois, un peu plus de 5 mois, mais à la fin, on fouillait 24 heures sur 24. Vous voyez, mais on a pu terminer complètement cette fouille. Et là, on a trouvé une industrie extraordinaire, comme ce biface, des pics. Alors, Termata, c'est une industrie caractéristique, où il y a beaucoup de pics, mais on connaît un autre site, le Finistère, qui est le même âge que Termata, qui a aussi livré des foyers, parce que Termata livrait des foyers, où il y a des pics, et il y a des ressemblances extraordinaires entre Ménez-Régan dans le Finistère et Termata. C'était des habitats installés sur une plage, et qui faisaient une industrie très voisine. Et puis le Hachero, ça c'est le Hachero type africain, c'est très rare en Europe, il y en a beaucoup en Afrique, ce qui prouve qu'il y a des influences africaines importantes. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'à Teramata a été trouvé les foyers. Et on peut dire que les foyers termitants, en tout cas, que j'ai trouvé, c'était, ils restent les plus anciens foyers actuellement connus dans le monde. Les plus anciens, c'est, qui ont été trouvés, c'est, ils sont à peu près tous du même âge. C'est très ancien foyer, 400 000 ans. Il y a ceux de Choucoutier dans Chine, qui avaient été étudiés, par l'abbé Breuil, le père Thiers de Chardin. C'est le père Thiers Chardin qui était le premier aperçu qu'il y avait des cendres à Choucoutier. Et d'ailleurs, il y a plein d'os brûlés, de silex éclatés par le feu et des cendres. Puis, ce Teramata, il y en a un autre foyer qui est à peu près du même âge, qui est trouvé en Hongrie, à Vertezolos, tout près de Budapest. Il y en a dans le Finistère, à Ménestrégan, pas loin de la Pointe du Raz, et récemment, en Angleterre, été trouvé par le professeur Goulette. Ce sont des, alors, le foyer de Teramata, celui-là date à peu près de 380 000 ans, mais il y a des foyers plus bas, dans une plage, qui datent d'environ 400 000 ans, et qui correspond à une période interglaciaire de réchauffement du quaternaire qu'on appelle le stade isotopique 11, et c'est celui-là de foyer dans une dune littorale qui marque le début d'une régression marine qui date d'environ 380 000 ans. Et vous voyez, c'est un foyer qui a à peu près 30 cm, entre 30 et 40 cm de diamètre, vous voyez, qui était peu profond, 15 cm de profondeur, et qui était rempli de sable, de brûlé, de cendres, de micro-charbon de bois, et qui était protégé par une petite murette de galets. Alors, depuis peu, j'avais, quand on fouillait Teramata, les techniques de la micromorphologie n'étaient pas encore au point, etc. Mais heureusement, j'avais ramassé des blocs de cendres. Des blocs de cendres qu'on a gardés compacts. Et récemment, on les a étudiés, on a les durcis, endurés, on a fait des lames minces et on a regardé ce qu'il y avait dedans. Parce que des fouilles faites dans la grotte du Zaré à Nice nous ont permis d'avoir une idée comment on pouvait étudier un foyer. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que dans ces cendres, on trouve des petits organismes marins, des mollusques, des gastéropodes marins, beaucoup de bivalves surtout. On trouve aussi beaucoup de grilles de loturies. Et manifestement, ces foyers de Teramata ont trouvé aussi des minuscules charbons de bois. Ont été entretenus avec des brindilles, des minuscules charbons de bois, mais surtout des herbes marines, peut-être des herbes terrestres. Et puis, je posais la question des holoturies. Ce foyer rempli de grilles d'holoturies, on peut se demander quelle était la signification. Est-ce que c'est qu'ils les mangeaient? Je crois pas. Est-ce que ça leur servait à faire du feu? Je ne sais pas. C'est une question qu'on se pose, je le sais, que depuis quelques jours. Vous voyez. Voilà. Alors là, je vous présente les plus anciens foyers connus en Europe. Vous voyez, ils sont situés surtout dans le sud de l'Europe. Et le plus nordique, c'est le site de Bechaspit. Mais le feu a été un formidable moteur d'hominisation, parce que le feu est clair. Et il a permis à l'homme de pénétrer dans les cavernes. Il a permis à l'homme de prolonger le jour au dépend de la nuit. Et de longues veillées, imaginez, de longues veillées autour du feu le soir sur la plage de Teramata. Le feu réchauffe, il a permis à l'homme de pénétrer dans les zones tempérées froides de la planète. Le feu permet de faire cuire la nourriture. Et c'est plus agréable peut-être de manger de la viande cuite que de la viande crue. Mais en faisant cuire la viande, on allonge l'espérance de vie. Parce que on fait reculer les parasitoses. Le feu aussi a permis d'améliorer la fabrication des outils en durcissant des épointes de pieux au feu. Mais le feu aussi est un facteur de convivialité, car autour du foyer s'organise un peu la vie sociale. On se raconte des histoires. Et que voulait faire un chasseur de Teramata qui avait abattu un rhinocéros ou un éléphant dans la plaine de Nice le soir autour du feu? Il se racontait l'histoire de chasse. Et à mesure que le temps s'écoulait, le animal qui avait été abattu devenait de plus en plus gros, de plus en plus monstrueux. Le chasseur qui l'avait abattu devenait de plus en plus un grand chasseur, un héros. Et c'est ainsi que sont nés les mythes, les traditions culturelles. Et à partir de 400 000 ans, les préhistoriens qui étudient les cultures paléolithiques mettent en évidence des traditions culturelles régionales à travers l'Europe. L'Achelien du bassin parisien n'est pas le même que l'Achelien du Latium, n'est pas le même que celui du sud-ouest. Alors on sait qu'il y avait une cabane d'après la dispersion des objets au sol, qui est très localisée. Donc on arrive à avoir le contour des cabanes. Alors on ne sait pas s'ils étaient habillés ou pas habillés. Là, on a opté de les mettre nus, mais enfin c'était une hypothèse. Avec des cerfs, des crânes d'éléphant, des lapins. Ils chassaient de l'éléphant, du cerf. C'était les animaux qui chassaient le plus. Mais ils chassaient aussi du thar, du daim, de l'auroch, du sanglier et des lapins et des oiseaux. Maintenant, nous retournons en Espagne dans la Sierra de Atapuerca. Et là, je vous présente l'entrée de la grotte, la Cueva Mayor, qui est la plus grande des grottes d'Atapuerca. Elle a plus de 700 mètres de long. La plus grande des grottes. Elle a été bouchée parce que c'est un site très protégé qui est fabuleux. Et devant la grotte, vous avez une jeune fille qui est une spéléologue, qui a découvert le site il y a quelques années, qui nous avait d'ailleurs invité à venir le visiter. Et à côté d'elle, le patron des fouilles, qui est le professeur Eudald Carbonelli-Aubois, d'ailleurs qui a soutenu sa thèse dans cette salle il y a quelques années, et qui est maintenant professeur à l'université de Tarragone, et qui est responsable des fouilles d'Atapuerca, et en particulier de la Cueva Mayor. Alors, si on va pénétrer dans cette grotte, vous allez marcher dans des galeries, vous allez passer deux chatières, et vous arrivez à 700 mètres de l'entrée, à une avenne qui a 15 mètres de haut, qui n'est pas d'ailleurs très bien équipée, il faut descendre. Ça, Eudald Carbonelli tient beaucoup, il veut que seuls des hommes un peu entraînés descendent dans cette avenne. Alors, il a toujours une échelle de spéléo, il aurait pu mettre une échelle métallique, toujours il faut descendre une échelle spéléo. Et vous arrivez dans une avenne où il a tout découvert, au cours des années, plus de 3500 restes humains. Plus de 3500 restes d'Homo erectus européen. Plus de 3500 restes d'Homo heidelbergensis. C'est-à-dire qu'il a trouvé au fond de sa veine, à 15 mètres de profondeur, à 700 mètres de l'entrée, plus de restes d'Homo erectus, on peut dire, au sens large, que ce qu'on a trouvé partout dans le monde pour toutes les périodes du quaternaire. C'est absolument extraordinaire. Mais alors, 3500 restes, vous pouvez penser que c'est beaucoup d'individus. Non, ça dépasse pas 20 individus. Et ça correspond surtout à des morts naturelles. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'individus de 9 ans. Il y a des demoiselles de 15 ans. C'était l'âge des premiers accouchements. Mais pas d'hommes, des femmes, 15 ans. Il y a beaucoup d'individus entre 18 et 25 ans. C'était la mortalité de ceux qui restaient. Et puis, pas d'individus après, à part une exception, vers 30 ans. Hein. Donc, alors on peut dire que cette population d'individus correspond à une démographie normale, une mort naturelle, à l'époque où on mourait, à l'époque préhistorique. C'est pas quelque chose de catastrophique. Si c'était catastrophique, il y aurait des individus de tous les âges. Imaginez que c'est un groupe qui se balade dans la grotte, qu'un ours le pousse et tombe dans la veine, il y aurait des individus de tous les âges. Là, c'est à l'époque où on mourait, à l'époque préhistorique. D'autre part, ce qui est extraordinaire, c'est que les os sont pas cassés. Ils sont entiers. Bon, certains sont cassés par le poids des terres, mais on reconnaît un os qui est cassé lors de son enfouissement parce qu'il y a des cassures bien droites. Mais si un bonhomme était tombé du haut de 15 mètres et qu'il arrive en bas, il serait cassé des os. À ce moment-là, il y aurait des cassures un peu spiroïdales, hélicoïdes. C'est la cassure du skieur. Là, il n'y a pas de cassure spiroïdale. C'est-à-dire que c'est des bonhommes qui sont tombés au fond de la veine sans se casser. Et on ne peut pas imaginer que les hommes préhistoriques les aient descendus au fond de la veine. C'est très difficile à descendre, c'est très vertical, ils n'avaient pas les moyens. Alors, il y a des médecins légistes qui ont fait des expériences pour essayer de voir s'il n'y avait pas des fois des crimes parfaits. Vous voyez. Par exemple, à Marseille, il y a une falaise qu'on appelle le Cap Canaille, qui a 200 mètres de haut, et très souvent, on trouve une voiture en bas avec un bonhomme dedans. Alors, si c'est un type qui a raté la route et qu'il arrive en bas, que la voiture tombe, parce qu'il a raté son virage, il arrive en bas, il se casse ses os. Et alors, on trouve un cadavre avec des os cassés. Mais parfois, on trouve un type dans la voiture, qui a la ceinture de sécurité, et il n'y a pas d'os cassé. On a raté le crime parfait, vous voyez, c'est un cadavre qui a été mis dans la voiture, mais quand il y a une certaine rigidité cadavérique, les os sont protégés, comme dans un sac, et ils ne se cassent pas. Et les os ne sont pas cassés, on peut expliquer que ces 20 individus ont été jetés au fond du puits. C'était une sorte d'avin sépulcral, c'est le plus ancien avin sépulcral de l'histoire de l'humanité. Alors, vous voyez, les crânes sont entiers. Alors, c'est des Homo heidelbergensis européens, très typiques, un peu plus évolués que l'homme de Totavel. Le crâne est un peu plus haut. Le crâne est surtout plus court en longueur. Il est un peu plus enroulé. Et il y a les restes de 20 individus avec des os entiers. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'a été trouvé au fond de cette veine, cette pièce. En fait, il n'y a pas d'autres ossements. Il n'y a pas d'ossements. Il y a les ossements humains, c'est tout. Ah oui, quelques ossements d'ours et cavernes, mais c'est normal. Les ours qui ont eu dans la grotte, il y a de temps en temps, qui tombaient au fond du puits. Mais il n'y a pas d'os de bouquetin, il n'y a pas d'os de cerf, il n'y a pas d'os de cheval, ce qu'on trouve dans les sites préhistoriques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éléments de nourriture des hommes préhistoriques. Tous ces restes sont en aucune façon liés à un habitat. D'autre part, il n'y a pas d'outils taillés, il n'y a pas d'éclats de taille. Généralement, quand on trouve des pièces, on trouve surtout des éclats, des petits débris. Mais cette pièce, c'est une pièce magnifique, qui est en quartzite rouge. Un quartzite qui vient d'une trentaine de kilomètres. L'homme est allé chercher cette roche à 30 kilomètres. Elle est parfaitement bien taillée, oui, bien symétrique, bien retouchée, avec une symétrie bilatérale, une symétrie bifaciale peut-être un peu moins bien, mais plan, ce qu'on appelle plano-convexe. les bords sont retouchés et intacts. Cette pièce n'a jamais servi. On l'a examinée au microscope électronique à balayage, tout au moins les empreintes de son tranchant au microscope balayage, n'a jamais servi. Il y a même trois endroits où il y a une retouche qui n'a pas sauté. C'est-à-dire quand on taille, de temps en temps, l'éclat ne part pas. Il reste en place. Mais si on appuie, il part. Et la rouge de la pièce, c'est-à-dire que ce biface n'a jamais servi. Et manifestement, c'est une offrande funéraire. Et avec le site, la veine, on l'appelle la chima de l'Uezo, c'est-à-dire la veine des ossements, au fond de la cuve à Mayor, et le plus ancien vin sépulcral de l'histoire de l'humanité, avec une offrande funéraire, c'est le balbutiement de la pensée symbolique, il y a 300 000 ans. Je vous remercie.
Vous venez d'entendre Henri de Lumley, directeur de l'Institut de paléontologie humaine à Paris, membre de l'Institut. Cette conférence publique avait lieu au sein même de l'IPH sur le thème de son dernier livre, Une grande histoire des premiers hommes européens, paru aux éditions Odile Jacob en 2007. Nous vous invitons à poursuivre l'écoute de nos émissions. Vous trouverez Yves Coppens qui s'exprime sur l'ensemble de sa carrière, ainsi qu'Henri de Lumley et la migration des hommes préhistoriques, suite logique de la conférence que vous venez d'écouter. Merci de nous avoir suivis et ne manquez pas les prochaines retransmissions des conférences publiques de l'Institut de paléontologie humaine sur Canal Académie.